Bienvenue pour cette analyse de vos sources. Aujourd'hui, on plonge dans plusieurs articles de iDebat, une publication marocaine.
Tout à fait.
Notre objectif, c'est d'en extraire un peu les informations clés sur des sujets assez variés.
Oui, ça va des tensions sociales à la diplomatie, en passant par les transformations culturelles, technologiques au Maroc.
Exactement.
Ces textes, en fait, ils nous donnent un aperçu assez fascinant, je trouve, des dynamiques actuelles. On va essayer de décortiquer ensemble quelques points saillants.
Allez, on commence. Premier sujet, Aïd Bouguemez, dans la province d'Azilal. Là, on a des habitants, des dizaines, peut-être même des centaines, qui ont manifesté.
Devant la préfecture.
Oui, devant la préfecture. Pour réclamer des choses assez basiques, des routes, des médecins, du réseau téléphonique, Internet.
Les fondamentaux, quoi.
Voilà. Et c'est ça qui est frappant, ce contraste, alors que le pays parle de 5G, voire de 6G pour la Coupe du Monde 2030. Regardons ça de plus près.
Oui, et ce qui interpelle vraiment dans leur démarche, c'est qu'ils ont choisi en fait de court-circuiter un peu les élus locaux.
Ah oui.
Pour s'adresser directement au gouverneur, à l'échelon supérieur. Ce n'est pas juste une manif locale, ça dit quelque chose de plus profond, je pense.
C'est-à-dire ?
Ça montre une sorte de déconnexion, peut-être, là où les grandes promesses nationales de modernité, elles se heurtent à l'absence des besoins les plus élémentaires sur le terrain.
D'accord.
La fracture, elle n'est pas que numérique, du coup. Elle est aussi politique, territoriale. Ça pose la question de l'efficacité de la gouvernance locale et puis aussi de l'utilisation des fonds de développement.
Surtout après le séisme d'Alaouz, j'imagine.
Exactement. Tous ces fonds pour la reconstruction, le développement rural, où vont-ils vraiment? Ces citoyens, en tout cas, ils montrent qu'ils refusent cette marginalisation. Ils veulent être connectés, au sens propre comme au figuré.
Une demande de connexion très concrète. Passons à une autre forme de connexion plus politique,
allez.
La diplomatie. Un des articles analyse une lettre,
oui.
Celle de Mizar Baraka, le chef de l'Istiklal, un parti historique marocain.
Son homologue du Parti populaire espagnol.
Voilà, le but, demander une clarification de la position du PP sur la question du Sahara. L'article parle de diplomatie partisane.
Oui, et c'est intéressant de voir ça dans un contexte plus large. En fait, cette approche, elle utilise quoi? Elle utilise les réseaux, les affinités idéologiques entre partis politiques.
D'accord. Via les internationales de partis.
C'est ça. Ici, l'international démocrate centriste. L'idée, c'est d'appuyer la position nationale marocaine sur le Sahara en mobilisant ses liens partisans. La lettre, elle rappelle le soutien international au plan d'autonomie.
Qui est croissant, d'ailleurs.
Oui, et elle positionne cette question non pas comme un simple différend, mais comme un élément clé pour la stabilité régionale, pour le partenariat euro-méditerranéen. C'est une stratégie assez fine, je trouve.
Qui combine la fermeté sur les principes et...
Et l'intelligence des réseaux. L'utilisation habile de ces canaux partisans en parallèle des voies diplomatiques officielles.
Une approche intéressante. Et cette question du pouvoir, de l'accès, des réseaux, on la retrouve d'une toute autre manière dans un autre article.
Ah oui, celui sur l'IA.
Exactement. Celui qui lance un « j'accuse » version 4.0, très direct. Il dénonce une nouvelle forme de lutte des classes liée à l'intelligence artificielle.
Oui, c'est assez provocateur comme thèse. L'idée, c'est que ceux qui maîtrisent l'IA, que l'article appelle les élites numériques ou les natifs IA, utiliseraient en fait ce savoir pour juger, pour disqualifier, voire pour exclure ceux qui tâtonnent un peu, qui apprennent par eux-mêmes, les prolétaires digitaux.
C'est une vision assez sombre quand même.
Oui, ça pose une question de fond. Est-ce que derrière tous les discours sur l'éthique de l'IA, le bon usage, etc., il n'y aurait pas en fait une tentative de préserver un avantage, une sorte de darwinisme social numérique, comme le dit l'article.
Et il prédit que la vraie révolution, la vraie appropriation de l'IA, elle viendra peut-être pas de ces élites, mais plutôt des marges. Des autodidactes.
Oui, des autodidactes, des créateurs qui voient l'IA comme un levier, un outil de survie, d'adaptation, et pas juste comme un marqueur de statut social. Ça interroge vraiment la démocratisation réelle de ces outils.
Une perspective qui fait réfléchir, c'est sûr. Allez, on termine sur une note un peu plus légère, peut-être. Plus humaine, en tout cas.
La musique au bloc opératoire.
C'est ça. Un article raconte comment ça a évolué au Maroc. Apparemment, dans les années 80, le professeur Ben Yahia, il opérait au son de Bach ou de Mozart.
Ah oui, le classique.
Voilà. Et aujourd'hui, certains chirurgiens préfèrent écouter du Chabi. On cite Ajib Fatna Bentloussin.
C'est plus qu'une anecdote, en fait. C'est assez révélateur, je trouve. On sait, la science le dit, que la musique, ça peut réduire le stress, améliorer la concentration de l'équipe chirurgicale.
Oui, bien sûr.
Mais là, le passage du classique au Chabi, ça suggère autre chose. Une forme, de réappropriation culturelle. C'est une façon de ramener du familier, du profondément marocain, dans un environnement qui est hyper technique, souvent anxiogène.
Une touche d'humanité en quelque sorte.
Oui, une sorte de résistance douce peut-être face à l'automatisation, à la déshumanisation potentielle des soins. Ça rappelle que soigner, c'est aussi accompagner et que le bien-être de l'équipe, ancré dans sa propre culture, ça compte.
Donc si on résume un peu tout ça, ces articles, ils nous donnent des flashs assez parlants, non ?
Des citoyens qui réclament leur dû.
Une diplomatie qui innove dans ses méthodes.
Une critique sociale face aux nouvelles techno.
Et la culture populaire qui s'invite même au bloc opératoire.
Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, finalement ? Je dirais que ces différents exemples, ils dessinent le portrait d'une société marocaine en plein mouvement, traversée par des tensions.
Oui, des tensions entre centre et périphérie, on l'a vu.
Entre tradition et modernité, qui s'accélèrent. Entre les aspirations mondiales et puis les réalités très locales, très concrètes. Et ça nous laisse avec une grande question, je pense. Comment est-ce qu'une société navigue dans ces transitions qui sont complexes ? Comment on fait pour que le progrès qu'on affiche, qu'il soit technologique, diplomatique, économique, bénéficie vraiment à tout le monde ?
Et qu'il ne creuse pas de nouvelles fractures.
Exactement. Qu'elles soient numériques, sociales ou même culturelles. C'est le défi majeur, sans doute.